17h dans le grand hall de la maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Lucie est sereine. Elle a choisi Autopass.
De la GMF.
L'assurance auto de la GMF qui en fait toujours plus pour elle et pour son budget.
Avec la GMF,
Lucie sait qu'elle fait 10% d'économie quand elle roule peu avec son auto ou quand elle prend les transports en commun. Et parce qu'elle a un véhicule plus propre, elle fait encore 5% d'économie.
Avec la GMF.
Lucie est sereine. Elle peut donc penser à autre chose qu'à son assurance auto. Ce qui est humain après tout. GMF, assurément humain. Voir conditions en agence ou sur gmf.fr.
France Inter.
La différence.
15h04 sur Inter. Là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet.
Salut les AMG, bonjour Daniel. Ce matin, chez Nicolas Demorand, encore une très belle saillie de notre indispensable et inévitable Éric Besson. Donc, il nous a donné une sur France Inter, une très belle leçon sur les dangers des dérives humoristiques sur le service public. Par contre, pas une seule réflexion, bien sûr, sur les dérives inévitables de son pathétique débat avorté sur notre identité nationale. Ça, aucune réflexion. Alors, pour M. Besson, le danger, c'est l'humour, bien sûr. C'est pas du tout le tapis rouge qu'il a tenté de dérouler devant le Front National. C'est l'humour. Donc, Stéphane Guillon serait dangereux. Mais M. Besson, lui, qui a permis au FN de relever le menton avec toute l'arrogance qu'on lui connaît, lui, n'est pas dangereux, bien sûr. Voilà, pauvre Monsieur Besson. Et longue vie à Stéphane Guillon. C'était Frédéric à Amiens.
Bonsoir Daniel Mermet, merci pour des émissions. Je t'appelle de La Réunion. Alors j'entends dire que La Réunion a basculé à droite. Doucement, La Réunion n'a pas basculé à droite. La Réunion a infligé une sanction à un homme qui s'appelle Paul Vergès. Alors, on dit qu'il est de gauche, mais on peut dire aussi qu'il était déjà de droite. Alors qu'on me trouve en France métropolitaine comme on dit ici, un homme de gauche qui fait l'accolade à Sarkozy lors d'une visite dans sa région. Alors cet homme de gauche, c'est un stratège politique, met sur sa liste pour le deuxième tour un monsieur TAC, comme on l'appelle ici, qui lance s'énervie en 4x4 sur des femmes du Parti communiste lors d'une réunion de contestation en 93. Ce monsieur fin stratège va dévergonder une candidate des Verts qui était sur la liste Europe Écologie pour dénoyauter le parti des Verts. Alors quand on me dit qu'il y a bascule à droite, je dis non, il y a sanction d'un homme qui a 85 ans, n'arrive pas à lâcher le pouvoir, on l'a aidé, et qui n'a pas pu trouver, soi-disant, quelqu'un pour le remplacer. Merci, Daniel.
J'avais peur que ce lundi soit différent des autres lundis, à cause que le peuple des abstentionnistes allait encore exprimer son enthousiasme en défilant dans les rues la bave aux lèvres, le couteau entre les dents et le poing levé, en criant « et 1, et 2, et 3, 0 ». Mais il n'en est rien, car qui ne dit rien peut vouloir dire à peu près n'importe quoi, même le contraire. Donc, ouf, ce matin, tout est comme avant. Monsieur le Président, Carla Bruni a bien entendu ceux qui se sont clairement exprimés et aussi ceux qui ne se sont clairement pas exprimés, et il a compris le message des Français qui n'avaient rien à dire. Attention, ça ne compte pas car beaucoup de Français qui n'avaient rien à dire ne sont pas allés voter. Et donc le résultat des Français qui n'avaient rien à dire en votant ne compte pas vraiment, si j'ai bien compris Xavier Bertrand. Donc la prochaine fois, si on veut dire quelque chose, le mieux c'est de se taire bien fort. Si un jour des types qui nous prennent si joyeusement pour des cons se retrouvent à la tête de l'État, on pourra se demander si par hasard on serait pas un petit peu aussi con qu'ils le pensent. Mince, je viens de me rendre compte qu'en fait ils sont à la tête de l'État et je me demande bien qui a pu les y mettre. C'est pas vous quand même.
Dimanche, j'ai tenu un bureau de vote et j'aimerais te dire, Daniel, que s'il y a un moment et un endroit où l'on peut comprendre que nos biens les plus précieux sont la République et la démocratie, c'est bien lors d'une élection populaire, quand elle se déroule dans une salle de classe de l'école publique. Un homme, une voix, quand on regarde le peuple dans toute sa diversité venir déposer son bulletin dans l'urne, on ne peut s'empêcher de penser qu'il dispose là d'un pouvoir formidable, dont il ne se sert pas assez, et dont on cherche à le distraire. L'absentéisme est un véritable crève-cœur pour un démocrate, notamment quand on constate la quasi-absence de participation des plus jeunes. Dans ce bureau de 1000 inscrits, 60% des plus de 50 ans, même très âgés, se sont déplacés pour voter, et seulement 35% des moins de 50 ans ont fait de même. Soutenir, comme le font certains, que l'absentéisme est une forme de révolte est pour moi un contresens dramatique.
Je voulais parler de la pseudo-victoire d'hier. Moi j'appelle pas ça une victoire, hein, parce que j'entends dans le Parti Socialiste exactement le même discours qu'à l'UMP. En fait, le PS, c'est de l'UMP light. Ça fait moins peur aux gens, voilà. Donc on va recommencer à parler croissance, pouvoir d'achat, consommation, etc. Et les ordres des multinationales, agroalimentaires, etc., au lieu d'aller aux gens de l'UMP, ils iront au PS. Puis voilà, la différence, elle est là.
Je vous donne le résultat de nos chers ministres candidats, avec la différence en pourcentage entre l'Alliance de gauche et la liste dans laquelle ils étaient. Tête de liste régionale, Valérie Pécresse, moins 13,38%. Xavier Darcos, moins 28,84%. Dominique Bussereau, moins 21,22%. Alain Joyandet, moins 9,05%. Valérie Létard, moins 25,98%. Alain Marleix, moins 19,36%. Hervé Novelli, moins 13,64%. Bruno Le Maire, moins 24,40%. Tête de liste départementale, Chantal Joanneau, moins 15,45%. Nathalie Kosciusko-Morizet, moins 17,28%. Brice Hortefeux, moins 30%. Hubert Falco, plus 1,42%. Une erreur, certainement. Nora Béra, moins 14,52%. Henri Drincourt, moins 11,12%. Benoît Apparu, moins 5,7%. Et les simples candidats, Marie-Luc Panchard, moins 42,51%. Nadine Morano, moins 22,27%. Luc Châtel, moins 2,01%. Hervé Morin, moins 14,62%. Et même Mme Ramatoulaye Yad, qui était dans le Haut-de-Seine, le fief de Sarkozy, moins 2,12%. Ça ne sert à rien, mais ça fait quand même plaisir. Didier Duvard.
Quelle méchanceté, vous entendez un peu cette délectation. Oh là 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 là, c'est vraiment... On dirait cette émission l'après-midi, vous savez, que vous avez sur France Inter, là, comment ça s'appelle? Là-bas, si j'y suis. Oh là là là. Bon, eh bien écoutez, on est ensemble jusqu'à 16h, malgré tout, enfin si vous voulez bien. Et on va... Vous savez ce que c'est qu'un radiateur? Ah, un radiateur, eh bien c'est celui qui radie. Eh oui. C'est comme ça que les agents de Pôle emploi s'appellent entre eux, se surnomment entre eux, radiateurs. Alors ça nous a quand même pas mal intrigué avec Pascal Yello. On est allé voir ces radiateurs jusqu'à 16h, c'est notre sujet. Auparavant, encore quelques messages dans le répondeur de là-bas. Vous savez, cette émission l'après-midi sur France Inter, je crois, c'est incroyable d'entendre des choses pareilles. Incroyable quand même.
Bonjour Daniel, bonjour à tous les auditeurs, modestes et géniaux, et en particulier à ceux de la région d'Aix-en-Provence. Attention, changement de lieu et d'horaire exceptionnel. Le repère du Pays d'Aix ne se tiendra pas ce mardi 23 mars au Parle Festival à 19h30 comme d'habitude. Mardi, nous nous réunirons à 18h à l'Institut d'études politiques, 25 rue Gaston de Saporta, pour participer à la conférence débat de François Ruffin sur l'indépendance des médias. François Ruffin est journaliste à la base, j'y suis, au Monde diplomatique, et il a créé le périodique Fakir. Il a écrit Les petits soldats du journaliste en 2002, Quartier Nord en 2006 et La guerre des classes en 2008. Rendez-vous mardi 23 à 18h à l'Institut d'études politiques, 25 rue Gaston de Saporta à Aix-en-Provence. Merci, à bientôt.
Bonjour, samedi prochain, le 27 mars, est prévue une journée festive de rencontres entre Rome et Gadget. Du théâtre, des expos, une table ronde sur comment accueillir les Roms dans l'agglo nantaise et bien vivre ensemble. Et ce sera suivi d'une soirée musicale tzigane et bretonne. Beau mélange. Alors rejoignez-nous à 14h30 à la salle des sports de Bassindre. Voilà, et c'est entrée libre, participation à la chaussette. A bientôt, c'était Audrey de Nantes.
Salut à toutes les auditrices et à tous les auditeurs modestes et géniales et géniaux. C'est le repère de la Bassigissuie de la ville de Mirepoix en Ariège. Ça tombe bien parce que c'était les élections il y a quelques temps là. Et en fait, jeudi 25 mars prochain, donc de 18h à 21h, il y a la projection du film Chomsky et le pouvoir. C'est à la salle de la SES, au 3 boulevard du Maréchal Joffre, donc juste à côté de la crèche, me fait-on préciser, et on vous attend nombreuses et nombreux. Salut à toute l'équipe et à très bientôt. C'était Guillaume, donc d'Ariège.
Bonjour Daniel, Thierry Caillé et les Biffins de la Porte Montmartre font de nouveau appel à toi. Grâce à ton émission en faveur des Biffins, nous avons obtenu que 200 Biffins puissent vendre Porte Montmartre. Je rappelle que les Biffins sont des gens très pauvres, qui vendent des objets récupérés dans nos poubelles. Ils ne font rien de mal. Daniel, maintenant c'est la mairie du 19e, Monsieur Madec, maire PS, qui fait un vœu contre les Biffins. Et voici une partie de ce vœu que je te lis. Je cite ceci, le maire en parlant des Biffins. Il cite, il dit, « d'atteinte aux droits des habitants du 19e de vivre en sécurité et dans le respect de leur intégralité physique, psychologique et matérielle. Ce vœu demande à la préfecture de mettre les moyens nécessaires contre les Biffins. Daniel, nous te demandons d'appeler les auditeurs à téléphoner à la mairie du 19e au 01 44 52 29 19 pour que cette mairie retire ce vœu du conseil du 22 mars et travaille à l'organisation d'un marché social de la récupération, comme cela se fait maintenant dans le 18e. Merci Daniel, la lutte doit continuer pour les Biffins, et nous l'engagerons maintenant sur la mairie aussi de Saint-Ouen, mais aidez-nous pour le 19e. Merci.
Je suis à Pôle emploi, je fais l'accueil le matin et vraiment je vois vraiment la misère quoi. Je vois vraiment la misère tous les matins quoi.
On a peur toujours de la boîte à lettres. On a peur si un recommandé qui arrive à payer quelque chose qu'on a oublié, un PV de la RATP, je sais pas, on est flashé. Vous savez, là maintenant on fait attention à tout. Hein.
J'ai vraiment le sentiment que les agents de Pôle emploi en arrivent à stigmatiser le demandeur d'emploi parce qu'on a un certain nombre d'objectifs à tenir et les radiations en font partie. Ben, le taux annoncé, c'était 500 000 radiations à l'année.
Oui, on va remettre les choses dans ce contexte. Nous, on a besoin de ce papier-là. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas ce papier-là?
Ben, ils m'ont donné déjà...
Non. Mais pourquoi vous n'avez pas votre déclaration d'impôt? Moi, je fais mon travail, je vous dis que ça, c'est pas bon.
Après, c'est soit on respecte le code du Pôle emploi, ou soit on respecte le demandeur d'emploi. C'est un peu ça, en fait.
Moi, je suis conseiller, je vous explique pourquoi vous n'avez pas ce papier-là. Moi, je fais mon travail, je vous dis que ça, c'est pas bon.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Pascal Le Pascariello. L'avenir radié.
Flight number 2, arriving from New York.
Combien de fois j'étais dans mon bureau avec mon casque téléphonique à recevoir des appels et je recevais des appels d'allocataires qui étaient dans la même salle d'accueil. Où j'entendais très bien, et j'étais même, mon bureau donné dans la salle, je les entendais me poser la question, et ils étaient juste à côté de moi. Et moi, j'étais derrière mon téléphone en train de répondre à la question. Ils déshumanisent totalement, c'est maintenant, on ne veut plus que les gens se déplacent. Les gens n'ont pas à se déplacer, puisqu'ils veulent tout par téléphone, internet, par courrier. Tout le côté humain, c'est de la perte de temps, de toute façon, pour eux. Parce que nous, on voit bien que le truc de retour renvoyé vers le 3949 ou Internet, ça pose de gros problèmes en parallèle sur les dossiers, sur les demandes d'allocation, sur les actualisations, sur les paiements. Les anomalies, ça crée des anomalies. Que si on les recevait automatiquement, il y aurait moins de problèmes. Moi, ça fait 6 ans.
Que vous travaillez pour...
Je travaille pour ex-Assédic de Paris à l'époque, maintenant Pôle emploi. Avant, un demandeur d'emploi, c'était une personne réelle, dans le sens où on l'écoutait, on essayait de voir le plus rapidement pour débloquer sa situation, et on comprenait sa situation. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a plus le temps. C'est limite pour nous des numéros. Moi, j'ai des collègues plusieurs fois qui m'ont dit, quand je reçois les gens pour les inscrire, si je les revoyais dans l'après-midi, je ne saurais même pas dire si je les ai eus le matin dans mon bureau ou pas. Et pourtant, on les a normalement une demi-heure dans le bureau. Un quart d'heure, une demi-heure. Et là, maintenant, on n'est même plus capable. On ne se souvient plus des noms des gens et on ne les écoute plus, on ne les regarde plus.
Bonjour, Pôle emploi à votre service. Le 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Pour accéder directement à nos services, tapez étoile. Cet appel passé d'une ligne fixe ou d'une box vous sera facturé 11 centimes d'euros maximum. Si vous appelez depuis un mobile, cet appel sera décompté de votre forfait ou facturé au prix d'une communication normale. Connaissez déjà le mot-clé du service souhaité, vous pouvez le prononcer dès maintenant. Pour actualiser votre situation mensuelle, dites « Actualiser ».
N'entrez pas, prévenez la police. N'entrez pas, prévenez la police. C'était un mot écrit sur un morceau de papier collé sur la porte d'un bureau de Pôle emploi à Saint-Quentin. Et un matin de mars 2009, le premier agent qui est arrivé au boulot a trouvé ce mot sur la porte du bureau voisin du sien. N'entrez pas, prévenez la police. Il a quand même ouvert la porte et il a vu son collègue pendu. C'est une histoire parmi d'autres, d'autres histoires analogues qui racontent assez ce qu'est le boulot à Pôle emploi. Pourtant, il y aurait de quoi se réjouir. 1 million de chômeurs en moins prévus pour cette année 2010. 1 million de chômeurs en moins. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et curieusement, notre modeste gouvernement ne s'en vante pas plus que ça. 1 million qui vont cesser cette année de percevoir une assurance chômage. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent en fin de droit. 1 million dont, on ne sait pas très bien, 400 000, 500 000, 600 000 ne recevront plus rien du tout. Ni l'ASS... Allocation de solidarité spécifique. Au passage, on se demande si celui qui a choisi ce sigle a fait un minimum d'anglais dans sa vie. AS, ça fait. Allocation de solidarité spécifique, 15,94 € par jour. Ou RSA, c'est-à-dire 456,63 € par mois, c'est l'ancien RMI. Eh bien, entre 400 et 600 000 n'auront plus aucun de ces droits. Ce chiffre d'un million a assez frappé les imaginations et sans doute aussi n'est pas pour rien dans les résultats des élections d'hier, dans l'abstention, dans la montée du Front National. Il y a sans doute un lien qu'on peut faire et que font sporadiquement, mais pas tant que ça finalement, ceux qui depuis hier, enfin depuis très longtemps, nous disent que les Français veulent dire ceci ou cela à travers leur vote ou leurs abstentions. Depuis des années, depuis 1996 exactement, la France consacre 4% de son PIB au chômage, à indemniser le chômage, 4% du PIB, soit environ 60 milliards par an, environ 60 milliards par an dans la lutte contre le chômage. La moitié en dépenses dites passives, des allocations de toutes sortes, et l'autre moitié en dépenses actives, en formation, en réinsertion, etc. Mais quand on sait en quoi consistent ces formations et ces réinsertions, on peut considérer qu'il s'agit aussi de dépenses tout aussi passives. Alors, est-ce qu'un jour on va changer de politique, réfléchir sur d'autres possibilités, au moins gérer ce drame, au moins imposer des mesures ou des politiques palliatives? On n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Ce qu'on a voulu faire avec Pascal Pascariello, c'est voir de l'intérieur quelques heures dans un de ces bureaux du Pôle emploi à Paris. C'est notre sujet du jour, jusqu'à 16h là-bas si j'y suis, l'avenir radié.
Donc,
3 mai 2009.
Là, on va dans le cœur du réacteur.
Les chômeurs se plaignent d'être systématiquement renvoyés vers une plateforme téléphonique encombrée. Voici l'autre côté de la ligne.
Ça va assez vite, hein. On est quand même plusieurs à être en position, donc le flux de traitement est régulier.
Même chose pour obtenir un rendez-vous. Les délais habituels sont d'une quinzaine de jours, pas ici.
Vous êtes inscrite il y a combien de temps ?
Le 17 avril sur Internet. Et on m'a convoqué pour aujourd'hui le 28.
Ça fait moins de 8 jours ouvrés.
Un premier agent lui ouvre ses droits. Un deuxième la reçoit pour faire le point sur son avenir. Le tout en une heure et sans changer d'agence. C'était une présentation idyllique. La réalité serait bien différente.
Excusez-moi.
Oui.
Vous connaissez bien vos Pôle emploi ?
Ouais, un petit peu.
Il y a pas mal d'offres ou pas ?
En basse période.
Vous, ça fait combien de temps ?
Moi, je suis en chômage, ça fait depuis le mois de mars dernier.
Depuis le mois de mars de l'année dernière ?
J'ai fait de l'intérim, je fais de l'intérim. Hein. J'ai bossé au bout d'un an en intérim, en tout, c'est 2 mois et demi.
Il n'y a que de l'intérim ?
Sinon, vous trouvez pour les mi-temps, vendeuse, tout ça, c'est ça. Hein, mais sinon, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien du tout. J'en ai marre. Hein. Heureusement, j'avais mon chômage. J'étais bien payé. J'étais à 1000 et quelques. Comme j'ai bossé, j'étais à 41 euros la journée. Et je me suis inscrit à l'IMPE. Vous savez, Pôle emploi, c'est du pipo, quoi. Ils m'ont même pas appelé. Il y avait des travaux dans l'agence. J'ai rien compris.
Et là, comment ça se passe? Il y a un vigile dans l'agence?
Il y a des gens qui sont en haute tension et tout ça. Ils sont énervés. Ils n'arrivent pas à gérer, donc j'ai dû les calmer. Mais bon, il n'y a rien qui les calme. Moi, je ne demande même pas à eux. Hein,
parce il n'y a qu'une personne.
Non, ça ne sert à rien de demander à ces gens de l'accueil. De toute façon, c'est une balle ping-pong. J'ai le droit d'une une prime de retour. C'est pas de retour à l'emploi. Fin de.
Vous êtes en fin de droit, là.
Fin de droit, mais ils ne m'ont rien donné. Hein. Je suis en RSA, là.
Vous êtes en RSA?
Ouais, je suis en RSA, ça fait 2 mois. Hein. J'étais à presque 1300 euros.
Et vous êtes passé à combien?
Là, je suis à... Comment ça s'appelle ça? Là, je suis à 402 euros. Et en plus, j'ai un loyer qui tombe. Mon loyer, il est à 436 euros. Donc, j'ai la PL. Donc, 294 euros, ils ont rajouté 1 euro. Hein. Bon, merci quand même. Que fait, je peux même pas chercher à aller de travail. J'ai pas de voiture à aller en panne. Je suis dans une galère, voilà. Faut qu'on accepte tout maintenant. Donc là, je vais avec 150 euros. Pour moi, par rapport à mon âge, je veux dire...
Vous avez quel âge?
Moi, j'ai 40 ans. La première des choses, je mets des pâtes. Je mange que des pâtes. Hein.
Vous n'avez pas d'enfants?
Si, j'ai des enfants, mais... je suis séparé, moi.
Et vous aviez bossé combien de temps?
Moi, je travaille, ça fait longtemps que je travaille. Moi, je fais au moins 7 ans dans le bâtiment, je travaille dans la restauration pendant 2 ans. J'ai travaillé comme dans le nettoyage aussi, hein, chez Citroën là-bas, j'ai fait le nettoyage aussi. J'ai bossé à la gare, la restauration du train. J'ai fait tout. Ah bon, c'est vrai que je cherche toujours dans mon métier et tout, et toucher plus. Maintenant, si je trouve à 8 euros, je bosse. Là, maintenant, on va chercher l'argent. Il faut chercher l'argent où il y a l'argent. Maintenant, quand on est dans le besoin, on travaille tout ce qu'il y a. C'est le système qui est comme ça. Voilà. Comme ça, les gens, ils craquent. Il n'y aura plus de choix de travail. Il n'y a pas.
Combien sont-ils à parler comme ça et à vivre comme ça? En France, régulièrement, on donne les chiffres du chômage, les fameux chiffres du chômage. C'est pas forcément le nombre de chômeurs, les chiffres du chômage. Mais il s'agit, on le sait, au fond, on le sait peut-être insuffisamment, de chiffres tronqués, pour ne pas dire truqués. Et on sait qu'il y a 3 sortes de mensonges. Les petits mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. On sait que lorsqu'on évoque le nombre de le chiffre du chômage, on évoque la première catégorie, c'est-à-dire la catégorie A, qui est celle des demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi sans emploi, catégorie B, catégorie C, catégorie D, etc. Si bien que il y a plus de 4 300 000 inscrits à Pôle emploi, ce qui suppose évidemment une gestion d'autant plus difficile on a un afflux récent dû à cette fameuse crise, mais évidemment qui est l'alibi et l'aubaine probablement aussi, qui explique ces... Mais en réalité, combien de Français ont affaire au chômage chaque année? Combien sont concernés par le chômage, par ce choc, évidemment, qui est de se retrouver au chômage, choc psychologique, perte de confiance en soi, enfin, etc. Toutes choses que, ou bien nous connaissons, ou bien que nous redoutons de connaître un jour ou l'autre. Rencontre avec Noëlle Burgi, qui est chercheuse au CNRS et spécialiste du travail.
Vous avez chaque année plus de 6 millions de personnes qui s'inscrivent à l'ANPE. Vous savez que vous avez 6 millions de personnes en France qui font l'expérience du chômage. Pour un total d'inscrits, selon les chiffres, qui varient entre 3,8 millions qui sont inscrits en catégorie ABC, 2,6 millions qui sont inscrits sur la liste de la catégorie A, là, qui n'ont pas du tout travaillé.
Dans le mois?
Voilà, dans le mois. Donc, vous voyez, c'est pour ça que ces chiffres-là sont des chiffres qui ne sont pas perçus toujours comme étant des chiffres valables, en tout cas, qui renvoient à la réalité du chômage en France. Je dirais que les 6 millions de personnes qui s'inscrivent tous les ans vous donnent une réalité un petit peu plus précise de ce qu'est l'état du marché du travail aujourd'hui. 6 millions, parce que vous savez, vous pouvez dire que sur ces 6 millions, il y en a peut-être la moitié qui vont retrouver un emploi, peut-être un emploi précaire, etc. Mais lorsque vous vous retrouvez à perdre votre emploi dans la conjoncture d'aujourd'hui, c'est une épreuve qui est terrifiante pour tout le monde. Et pas seulement pour les gens qui sont les plus vulnérables, pour tout le monde. La fusion de la CEDIC et de la NPE, elle a été décidée pendant la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Enfin, elle a été annoncée au moins à ce moment-là. Et il semble que déjà à ce moment-là, les agents de l'ex-ANPE et de la CEDIC aient ressenti en interne une transformation, une évolution dans le mode de gestion de ce qu'on appelle les ressources humaines, c'est-à-dire dans le mode d'organisation du travail, avec une intensification de la logique de la gestion par objectif. C'est-à-dire qu'en fait, la gestion par objectif qui a été introduite depuis un certain temps, déjà depuis très longtemps à l'ANPE, est une gestion qui demande à l'agent de respecter un certain nombre d'objectifs, par exemple un taux de sortie. Le taux de sortie, c'est la sortie de la liste des demandeurs d'emploi. Il s'agit de se plier aux objectifs publics, de la puissance publique. Et les objectifs de la puissance publique sont des objectifs qui ne sont pas des objectifs humains, ce sont des objectifs gestionnaires. Ça n'a rien à voir. Et donc, le facteur humain là-dedans, il disparaît complètement. D'ailleurs, un agent Pôle emploi qui voudrait véritablement s'occuper de l'orientation professionnelle d'un demandeur d'emploi qu'il a en face de lui, ne pourrait pas le faire. Ça prend trop de temps. La finalité du travail change. C'est ça ce qu'il faut réussir à comprendre. C'est qu'ils servent des objectifs et ils ne peuvent plus servir le demandeur d'emploi.
Les plans sociaux continuent. Et la courbe du chômage reprend sa triste course en avant.
France 3, 24 février 2010.
En janvier, la France compte 2 664 600 demandeurs d'emploi, avec 19 500 chômeurs de plus que le mois précédent. Cependant, si l'on inclut tous ceux qui ont une activité réduite, il y a alors 4 100 000 demandeurs d'emploi. La seule bonne surprise de ces chiffres concerne les jeunes. Le nombre d'inscrits diminue légèrement. En revanche, les seniors et les chômeurs de longue durée sont toujours plus nombreux à Pôle emploi. La crise n'en finit pas de produire ses effets. Depuis plus d'un an, le nombre d'inscrits a ainsi dépassé 1 300 000 personnes, soit près d'un tiers des demandeurs d'emploi. Certains des chômeurs de longue durée risquent d'arriver bientôt en fin de droit, c'est-à-dire sans allocation chômage.
Ça va faire 28 ans maintenant que je travaille pour Pôle emploi, anciennement ex-ANPE. Je pense que le nombre de radiations, son accroissement, il est lié aux objectifs qui nous sont fixés, puisque dans les objectifs nationaux, et puis ensuite on les décline au niveau de la région et du département, on a un certain nombre d'objectifs à tenir, et les radiations en font partie. Le taux annoncé, c'était 500 000 radiations à l'année. Ça a été annoncé par Christian Charpie, qui est directeur général du Pôle emploi. 500 000 radiations, c'est énorme. C'est 500 000 personnes, êtres humains derrière.
Alors voilà, ça, on va l'appeler Delphine, c'est pas son vrai nom. Elle est, vous avez compris, elle travaille au Pôle appui, et très précisément. Elle a une longue expérience de l'intérieur de cette de la NPE, puis maintenant de Pôle emploi. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit auparavant, sur la gestion, sur le côté absolument gestionnaire. Il y a un petit livre qui vient de sortir qui s'appelle « Confession d'une taupe à Pôle emploi » et qui est un témoignage d'un agent qui lui aussi a pas mal d'expérience et qui travaille à Pôle emploi et qui rappelle comment lors de la création de Pôle emploi, on a fait appel à des cabinets tels McKinsey, autres Accenture, pour gérer les choses d'une façon tout à fait une direction marketing. Quant à Christian Charpie, auquel il vient de faire allusion, et il est depuis avril 2005 le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, maintenant devenu donc Pôle emploi, et il devrait percevoir pour l'année 2009, d'après les prévisions, 275 000 euros bruts, soit 45 000 euros de plus qu'en 2008, c'est-à-dire qu'il a un salaire qui correspond, qui est au même niveau que celui du Premier ministre François Fillon, ce qui lui avait valu des remontrances un petit peu sévères de la part de Benoît Hamon, qui l'avait traité de canaille carrément. Alors nous voilà maintenant à la question des radiations. Et dans ce petit livre, l'auteur qui reste anonyme dit que voilà, Pôle emploi, c'est une machine à radier. C'est la machine à radier, et voilà pourquoi les salariés de les agents, entre eux, s'appellent des radiateurs. Témoignage de Delphine.
Ce n'est pas vraiment caché, même si les textes, on ne les a pas forcément. On a quand même quelques inspirations dans ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue de performance, où sont répertoriées les priorités à mettre en œuvre pour l'année en cours.
Et alors, par exemple, si moi j'ai un dialogue de performance, donc il est sous mes yeux. Effectivement, c'est un document de travail où il y a la petite croix où il y a écrit ne pas diffuser, c'est ça ?
C'est tout à fait ça. Donc, il y a une déclinaison nationale du dialogue de performance. Donc, le directeur régional de chaque région doit mettre en place son propre dialogue de performance adapté à la situation de sa région.
Si on prend les premières pages, il y a beaucoup de tableaux avec des chiffres. Alors, on a dans le tableau les indicateurs stratégiques de 2009, le bilan du Pôle emploi pour une région donnée. Hein.
Alors, les indicateurs stratégiques, ils sont aussi bien sur le délai de traitement d'un dossier, le délai de convocation au premier entretien pour réaliser l'inscription. Donc, c'est ce qu'on a là, délai IDE, PPAE à 0 jour. Sur l'indicateur suivant, on a un taux de sortie à 6 mois. Donc, dans ce taux de sortie, si on prend le terme comme ça, pour quelqu'un qui n'est pas de l'établissement, ce n'est pas parlant. Pour quelqu'un qui travaille à Pôle emploi, ça veut dire le taux de sortie, ça veut dire les cessations d'inscription et les radiations. Et donc, on a un taux de sortie à atteindre.
Ça veut dire à 6 mois, c'est
ça. 6 mois d'inscription.
C'est-à-dire au bout de 6 mois d'inscription, la personne voilà. Doit sortir du...
Voilà, on a un taux d'objectifs à réaliser, de sortie des fichiers des demandeurs d'emploi pour ceux qui atteignent 6 mois d'inscription.
On décide sur aucune base. Radier quelqu'un, en l'occurrence là, un taux de radiation qui se base sur aucune autre base que celle de faire du chiffre, c'est ça ?
Enfin... Oui, c'est tout à fait ça. C'est qu'il faut trouver les moyens de réduire le nombre des demandeurs d'emploi qui sont inscrits parce qu'on a un taux de chômage inégalé depuis des années, qui va s'accroître encore. On a des directives pour faire baisser le chiffre du chômage. Alors, il est monté des opérations comme on en a connu dans l'ex-ANPE, qui était par exemple l'opération chômeur longue durée. On avait l'obligation de convoquer tous les chômeurs de longue durée. Et si les demandeurs d'emploi ne se présentaient pas à la convocation, par exemple, eh ben, il y avait la procédure de radiation qui s'entamait derrière. Donc, quand on est chômeur de longue durée depuis au moins 12 mois, et ça c'était le minimum, parce qu'il y a les chômeurs de longue durée, puis de très longue durée, où on a plus de 24 mois, voire 36 mois d'inscription et plus. Quand on voit que de toute façon des solutions, il n'y en a pas, que le conseiller qui va nous recevoir n'aura pas grand-chose à nous proposer, parce que des offres, il n'y en a pas, surtout dans la situation actuelle, eh ben... On se dit que c'est pas la peine de venir, de toute façon ça rime à rien, on va rien m'apporter. Donc il y a des demandeurs d'emploi qui ne viennent pas, il y a des demandeurs d'emploi pour cette raison-là, il y a des convocations qui n'arriveront jamais. Et tout ça va générer un certain nombre de radiations ou de cessations d'inscription à l'issue, qui va permettre de faire baisser les chiffres.
Vous, c'est ce que vous avez fait donc ?
C'est ce que j'ai fait il y a quelques années. Ça s'est répété, donc c'est l'opération jeune, c'est l'opération chômeur longue durée, maintenant ça va être l'opération senior, etc. Donc sous couvert de s'occuper vraiment des demandeurs d'emploi, de faire un point sur leur situation et de trouver des solutions adaptées, derrière on va arriver à atteindre un certain nombre de demandeurs d'emploi qui ne seront plus inscrits sur les listes.
Et l'économie ce matin, c'est bien sûr le chômage qui repart à la hausse.
France Info.
Et ce constat, Emmanuel, vient contredire clairement la promesse du chef de l'État le mois dernier.
25 février 2010.
Oui, parce que Nicolas Sarkozy, face au panel de Français réunis par TF1 le mois dernier, était formel.
Je sais que dans les semaines et les mois qui viennent, vous verrez reculer le chômage dans notre pays.
Voilà, et bien le chef de l'État s'est littéralement emballé. Il avait en tête une éclaircie en toute fin d'année qui allait être annoncée quelques heures plus tard. Non seulement elle ne se confirme pas en janvier, mais qui plus est, les chiffres ont été corrigés.
Les chiffres de décembre.
Absolument, le chômage n'a même pas baissé en décembre, il a au mieux stagné.
C'est à la main du directeur d'agence de prendre la décision ou pas de radier quelqu'un. Ce n'est pas un conseiller ou un agent administratif du pôle appui qui va pouvoir prendre cette décision. Et c'est nous qui appliquons, qui faisons les actes professionnels qui vont générer la radiation et la suppression des allocations. Une radiation vous empêche de vous réinscrire pendant le temps donné, hein, ça peut être 2 mois, ça peut être 15 jours, et ça vous supprime les allocations pendant la même durée. Ça vous supprime, mais vous ne les retrouvez pas. Et très très souvent, et malheureusement au jour d'aujourd'hui, on leur parle beaucoup de leurs obligations et pas assez de leurs droits. Ce que j'entends sur les chômeurs, des discours du style « c'est pas possible qu'il n'ait pas reçu de convocation », ils trouvent toujours des raisons pour refuser. J'ai vraiment le sentiment que les agents de Pôle emploi en arrivent à stigmatiser le demandeur d'emploi parce que ils ont une telle pression de la part de leur hiérarchie, de la part de l'établissement, que il faut trouver un exutoire et parfois l'exutoire c'est celui-là quoi. Malheureusement c'est celui-là, de par la pression que l'on a sur nos épaules au quotidien.
Comment elle se traduit la pression au quotidien sur vous? Par exemple.
Alors la pression, le quotidien, elle va se traduire par, de toute façon, il y a un contrôle de ce que l'on fait, hein, qui est mis en place en interne. Donc même les actes professionnels que je fais en désobéissance, c'est-à-dire d'annuler un avertissement avant radiation, etc., ou une sanction, elles sont tracées dans le dossier du demandeur, avec mon numéro de matricule, et on peut me retrouver à tout instant.
Vous avez un numéro de matricule?
Oui, chaque agent du service public a un numéro matricule, et tout ces actes professionnels sont tracés, on peut trouver qui a fait quoi, bien sûr. Donc là, j'ai ce risque de sanction sur les épaules au quotidien. Ça peut aller au licenciement pour faute professionnelle. Hein. C'est la pression du public, mais pas physique, mais du public par rapport au nombre de dossiers qu'on a à traiter dans la journée, par rapport aux cas de plus en plus dramatiques. Moi, ça me met une pression supplémentaire parce que, au fil des années, les situations sont de plus en plus catastrophiques pour eux et j'ai pas de moyens, quoi. Je me sens totalement impuissante face à cette situation critique et face à cette batterie de sanctions administratives qu'on met derrière pour pénaliser le demandeur d'emploi, pour le stigmatiser, alors qu'il n'est pas responsable de sa situation. Il y a déjà eu des jours où en me regardant dans la glace, et ben j'ai dit « je ne peux pas y aller, quoi. Je ne peux pas y aller aujourd'hui, je n'y vais pas, je ne peux pas, je craque. » Oui, et j'ai peur que ça m'arrive encore demain. Parce que la situation ne s'arrange pas et que ce soit en interne ou en externe, hein, la situation des chômeurs ou la situation en interne et les directives internes font que y a des matins je peux plus, quoi. Plus ça va aller et je risque de moins en moins pouvoir venir et être tout le temps en contradiction ou écartelé au quotidien dans ma manière de travailler. C'est de faire un sale boulot et de ne pas rendre un service pour lequel je suis rentrée à l'ex-ANPE à l'époque. C'est que l'organisation m'impose de ne plus avoir de conscience professionnelle.
Ils fonçaient, dans le boulot ils se défonçaient. L'heure de bureau à peine commencée, ils dépassaient l'énoncé. Le pauvre mec, les cernes creusaient les pommettes. Ils se soumettaient hiver ou été, les heures sup creusaient la moquette. En l'occurrence, il en faisait de trop. Ordonner les choses sous les gouttes chaudes que la sueur dépose partie. Le patron ravi n'allait pas s'en plaindre. Avoir un employé hardi qui peut dépeindre l'ambition à atteindre. Ce qui est bien avec la concurrence, c'est qu'on se tire dans les jambes pour des miettes que le patron n'osait même pas nous vendre. Notre homme braillé. Coûte que coûte, les moultes moultes, ordre avec des mots que le patron lui-même n'osait employer. Les employés sous le stress le voyaient lentement s'enrayer dans la folie dans laquelle il s'est lui-même envoyé. Et quand il s'est évanoui, le boss n'a rien éprouvé, a juste pris l'après-midi pour nouveau bras droit trouver. Pris dans l'engrenage concurrentiel, les petits employés pleins d'étincelles sont souvent plus démentiels que les règles elles-mêmes. Alors si la concurrence ne cesse de vous tendre, allons, gardons d'humain le peu que l'on pourra défendre.
Quand la concurrence ne cesse, on a plus besoin d'humains à part le peu qu'on nous vend.
Canal+.
La fusion est en cours. Tout doit être terminé en septembre. C'est forcément une période compliquée. S'il reconnaît quelques ratés, le directeur de Pôle emploi s'en tient aux chiffres officiels.
3 mai 2009.
Aujourd'hui, les dossiers en attente d'annulation équivalent en gros à moins de 2 jours de traitement, ce qui est tout à fait gérable, ce qui est conforme à ce qui s'est fait dans les années précédentes. Et les plateformes téléphoniques, même si elles doivent encore s'améliorer, sont aujourd'hui plus efficaces qu'elles étaient il y a quelques semaines.
Mais ça marche.
Mais un chômeur excédé vient l'interrompre.
S'il te plaît, t'arrêtes pas. On est tous là. D'accord. Je vous entends discuter. Moi, je suis juste venu pour une connerie. D'accord. Ça fait juste 2 mois. J'attends d'être payé, tu vois, parce que j'étais chômeur en février. La dame qui est là, bon, elle fait son boulot, la pauvre. C'est une totale désorganisation. Dites la vérité. Mais dites qu'aujourd'hui, il y a des vrais dysfonctionnements au niveau des assédiques, que les gens, des fois, ils sont pas payés depuis 3 mois. Là, attendez, si vous discutez juste, j'entends discuter avec le gars devant moi. Le gars là, tu vois, il est en train de voir, il a des problèmes de paiement aussi.
Déclaration. Moi je l'ai fait parce que ça m'arrivait pareil comme toi.
Hein. Mohamed, c'est vous qui faites le conseiller à une peu. Parce qu'il est parti le conseiller. Ouais. Vous, ça fait combien de temps que vous cherchez?
Ça fait 3 ans.
3 ans. Et le conseiller revient.
Mais on va remettre les choses dans ce contexte. Nous on a besoin de ce papier là. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas ce papier là?
Ils m'ont donné déjà.
Non. Mais pourquoi vous n'avez pas votre déclaration d'impôt? Moi je fais mon travail et je vous dis que ça c'est pas bon.
Mais pourquoi votre collègue a pris le papier la dernière fois? Il m'a dit c'est grave. Mais vous étiez là?
Oui,
vous étiez juste
non,
à côté?
Non, pas là, non, je pense pas.
Si, vous étiez là, j'ai dit pas que vous étiez là.
Ah écoutez, si vous voulez, mais moi je me souviens pas de vous d'une. Et puis c'est vraiment, je me rappelle pas, je vois des tonnes de personnes tous les jours, c'est compliqué de se rappeler.
Vous avez dit ça comme ça parce que.
Moi je suis conseiller, je vous explique, je suis pas là pour faire le ménage. Voilà, il a fermé la porte, il a monté.
Ah oui, il est parti un peu énervé, quoi.
Ils aiment pas qu'on défend. Il a claqué la porte, t'as vu ça?
Ouais, ça a devenu un peu bordélique, là.
Je bouge pas d'ici.
Okay. Mohamed, il est en train de suivre le conseiller à l'extérieur.
Bonjour, Pôle emploi à votre service. Le 3949 est le numéro unique des demandeurs d'emploi et des actifs. Pour accéder directement à nos services, tapez étoile.
Ouais, c'est pour éviter ces affrontements parfois peu caressants entre les conseillers de Pôle emploi et les chômeurs, les inscrits, qu'il a fallu mettre ce téléphone 39-49, ça met un peu de distance. N'empêche que de chaque côté du guichet, c'est quand même très très dur dans cette machine à radier. Et parce que bien sûr on dit pas il faut les radier, mais il y a des tas de techniques qui sont longuement décrites dans ce bouquin Confession d'une taupe à Pôle emploi pour radier. Ça revient à ça, mais ça se dit pas comme ça revient à ça, c'est ce que nous disait Delphine à l'instant. Et si jamais le conseiller a des états d'âme, ne fait pas tout à fait ce qu'il faut, ben il est quand même déconsidéré par, évidemment, son chef, et déconsidéré aussi par les collègues, parce qu'il y a une prime collective quand les résultats sont bons. Voilà, c'est une machine véritablement à éliminer les chômeurs, à faire disparaître les chômeurs, qui s'appelle Pôle emploi. Témoignage de Lucien, 47 ans.
Donc ce que je fais, alors actuellement depuis le mois de décembre, je suis en contrat aidé, contrat avenir, donc à Pôle emploi, qui sort un petit peu du cadre de ce que j'avais l'habitude de faire jusqu'à là.
Est-ce que vous aviez l'habitude de faire quoi?
Ah bah j'ai travaillé plus de 20 ans, j'étais commercial, j'ai élevé 2 enfants, 10 garçons et une petite fille, ils sont grands maintenant. Et un jour, j'ai été licencié. Après ça, c'est vrai qu'on prend déjà une bonne claque, quoi. Après une vingtaine d'années, c'est de commercial, fichier client, etc. Et vous les revoyez plus, c'est terminé, c'est fini. C'est compliqué à digérer, quoi. Alors, bah, j'ai un petit peu plus de 45 ans. Donc, ce qui situe quand même l'âge, en reflet, donc, avec les contrats aidés, puisque contrats aidés, contrats à venir, bah en fait, c'est un CDD qui est valable 2 ans, voire avec 1 an renouvelable, si tout se passe bien, et le contrat ensuite est fini, quoi. Donc ça veut dire, c'est fini, et bel et bien fini, quoi. Contrat à venir, c'est un contrat de 26 heures, donc ça frise, quoi, tout à peine 900 euros, quoi. Ouais, qu'il n'y a pas de quoi à se relever la nuit, à bosser dans le cadre d'un contrat à venir et de 26 heures. Bon, alors c'est vrai que c'est toujours ça, comme on dit, on prend aussi ce qui peut passer, c'est pas super. Bon, alors après, chacun fait en fonction de sa situation. J'ai passé 3 ans en tant que demandeur d'emploi, donc j'ai fini par arriver en fin de droit, donc vous percevez la SS. La SS, c'est 450 euros. Donc c'est pire encore, c'est pire encore. Là, à ce moment-là, on se dit, mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je fais, quoi. Pour ma part, j'ai travaillé officieusement. Enfin, je vois pas beaucoup d'autres solutions pour faire en sorte de pouvoir prétendre un salaire meilleur, quoi. Ou alors, je sais pas, on fait dealer, ou... Et bon, c'est plus la même image. Alors en fait, j'ai rénové beaucoup d'appartements, quoi. Donc c'est un créneau où en fait il y a pas mal de gens, il y a pas mal de monde, mais il y a beaucoup de demandes. Donc j'ai fait beaucoup d'appartements en rénovation.
Vous touchez à peu près combien de la SS et des petits boulots à côté?
Alors la petite fourchette, on peut dire que ça voisinait 2000 euros, quoi, 2000 euros par mois, quoi. Bon, c'était pour moi, c'était pas quelque chose de stable. Enfin, je veux dire, à long terme, c'était pas viable à long terme. Fallait que j'arrive vraiment à cadrer ma situation. Voilà, on se dit, ouais, c'est vrai que, attention, ma retraite, comment ça va se passer, quoi. De là, j'ai pris contact plus avec Pôle emploi, un conseiller. Aujourd'hui, voilà, je touche beaucoup moins d'argent. Et finalement, en travaillant, quoi, c'est ce qui est assez terrible.
Et justement, et vous, votre compagne travaille, enfin...
Non, je suis séparé. J'ai par contre, j'ai ma fille, fille à charge qui est à la maison, avec sa petite fille aussi. Mais bon, voilà, c'est important quand même d'avoir un emploi stable, ferme, et un salaire. C'est pas le cas de vraiment tout le monde, quoi. Je suis à Pôle emploi, je fais l'accueil le matin, et vraiment, je vois vraiment la misère, quoi. Je vois vraiment la misère tous les matins, quoi. Donc voilà, on peut se dire aussi qu'il y a toujours pire. Et il y a toujours plus malheureux que soi. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une façon de se consoler. Mais enfin, bon, c'est ce qu'on peut se dire aussi, quoi. Enfin, je rentre, moi, le matin. Et franchement, attends, mais j'ai vraiment pas le temps de penser à autre chose, quoi. Et la relation curieuse, c'est que j'ai fait pendant très longtemps des chantiers, à me lever super tôt le matin, à rentrer super tard. Et je me trouve à être plus fatigué, là, chez Pôle emploi, que de faire des chantiers, quoi. Mais quand je rentre, je suis mort, quoi. Parce que la misère, les matins à l'accueil, tous ces gens qui ont à moitié plus de revenus ou qui ont bientôt... plus de d'allocations arrivant en fin de droit, et je pense que là c'est un peu le haro qu'on entend ici et là. Il y en a vraiment beaucoup, et alors là il n'y a plus de rentrée d'argent du tout, quoi. On se demande comment ça se passe, quoi. Enfin, c'est vrai que j'ai forcément une petite pensée pour tous ces gens. Alors finalement je suis pas mieux, ouais, si, peut-être un petit peu mieux loti qu'eux, façon de parler. Alors je sais pas, c'est peut-être pas une bonne comparaison. Mon petit revenu de 800 euros, encore une fois, il n'y a pas de quoi pavoiser, quoi. Et putain, c'est pas... Mais bon, c'est comme ça.
Mais est-ce que justement, là, vous avez la possibilité de faire en sorte que la personne soit paradiée ou pas, enfin...
Mais moi, c'est pas ce qu'on m'a demandé.
Non, vous avez demandé de faire quoi, ouais, alors, par rapport à...
Ah ben moi, on m'a demandé de démarrer une procédure, quand il y a lieu de le faire. Donc j'ai forcément des directives, j'ai des consignes. Je vais pas dire de ne rien laisser passer, mais chaque courrier est vraiment épluché, quoi. Chaque courrier est épluché, quoi. Je vais déclencher une cessation de d'inscription. Et bon, voilà, avec tout ce que ça engendre derrière, quoi. Et de se dire, bah tiens, ce gars-là, là, forcément, je vais le coincer, quoi. Enfin, c'est pas moi. Enfin, si, on se sent un peu... Hein, on culpabilise un petit peu, quelque part, quoi. De se dire, forcément... je vais faire la cessation d'inscription, c'est pas ma directrice, à mon avis, qui va me dire non, elle va signer, le truc va partir, et bon voilà, c'est un demandeur d'emploi aussi qui sera radié, forcément, qui finira par être radié. Mais bon, ouais, c'est un peu une chaîne, et travail d'équipe. travail d'équipe. Bah, on se sent un peu, je vais pas dire coupable d'avoir mis cet individu éventuellement dans le déclin. Mais bon, en fait, quelque part, on vous laisse pas le choix, quoi. C'est comme ça et c'est comme ça, quoi. Si voilà, tu le fais pas, bah tu pas faire un boulot ailleurs, faire autre chose, quoi. Mon parcours, il est tout récent, tout frais chez Pôle emploi. Alors peut-être qu'effectivement, mars, avril, mai, je sais pas, je serai peut-être plus chez Pôle emploi.
Pourquoi vous y serez plus ?
Finalement, je pense que je craquerai. Donc voilà, j'avoue, je sais pas bien où je vais. Bon, ce qui me faisait plaisir, c'était Pôle emploi, c'était une grosse enseigne, une grosse société. Mais enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est pas joué, quoi. J'ai vraiment, vraiment, vraiment l'impression que c'est pas joué.
Pour actualiser votre situation mensuelle, dites « Actualiser ». Pour les offres d'emploi...
Voilà, merci à tous. C'était l'avenir radié. Reportage de Pascal Le Pascariello. Merci à Delphine, Mohamed, Marie et Lucien. Merci aussi à Noël Burgi. Je rappelle le titre du bouquin que j'ai cité au cours de cette émission, « Confession d'une taupe à Pôle emploi » d'Aude Rossigneux et Gaël Guiselin. C'est chez Calman Lévy, ça vient de sortir. Et un livre un peu plus ancien de Noël Burgi, à la découverte en 2006, « La machine à exclure, les faux semblants du retour à l'emploi ». Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter. À la rubrique émission « Là-bas si j'y suis », où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Yann Bouillot et Guillaume Roux, c'est Koyen Guyen et Raphaël Moutéat qui ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Lebotte et Céline Rouzet. Attend vos messages au répondeur de la base j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Nous sommes au Futuroscope pour vous parler de l'attraction imaginée par Luc Besson. Arthur, l'aventure 4D, un vol à dos de coccinelle au pays des Minimoys.
Oh, regarde un peu devant toi et appuie sur le champignon.
Un concentré technologique qui commande pour vivre le grand frisson.
Oh, et c'est normal qu'on fonce droit sur une grosse toile d'araignée.
Après les films, l'attraction. Découvrez Arthur, l'aventure 4D au Futuroscope. Une réalisation du département de la Vienne. Futuroscope, votre prochaine destination séjour. Futuroscope. Retrouvez les tarifs et les promotions sur futuroscope.com.
MAF Assurance, bonjour.
Bonjour, ça dépend de vous, Miss MAF. Votre bien-aimé directeur m'a laissé entendre que si j'assure mon auto et ma moto à la MAF, je peux avoir moins 40% sur ma cotisation moto.
Moins 40%, je vous le confirme.
Sûr? Parce que j'aimerais bien l'avoir un jour, votre directeur, vous comprenez?
Vous ne pouvez pas avoir le directeur, mais consolez-vous, vous pouvez avoir les moins 40% sur votre assurance moto.
Oui, c'est bien aussi, Miss MAF. Très consolant.
C'est la MAF.
Condition de l'offre au 0800 517 566. Appel gratuit.
16h30 sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Bouin. Salut.
C'est un chiffre terrifiant que rend public le collectif des morts de la rue. Selon leur décompte présenté comme non exhaustif, 74 sans domicile fixe, dont 4 enfants, sont morts en France depuis le 1er janvier de cette année. 21 personnes depuis le 11 mars dernier, date de leur dernier communiqué. 2 des enfants sont morts dans l'incendie de leur cabanon où ils vivaient en famille. Les 2 autres vivaient aussi en cabane, selon l'association qui rappelle qu'il y a eu 358 décès de SDF en 2009. Les critiques pleuvent sur Nicolas Sarkozy au lendemain du second tour des élections régionales. Le sénateur de Moselle, Jean-Louis Masson, un non-inscrit mais qui souhaite la victoire de la droite en 2012, se demande ainsi si le chef de l'État reste le meilleur candidat à droite. Dans un communiqué, il cite les noms de Villepin, Juppé ou encore Copé. Dominique de Villepin, justement, devrait sortir du bois jeudi prochain. De retour de 2 semaines à l'étranger, l'ancien Premier ministre a décidé de se lancer dans la course présidentielle. Il annoncera officiellement la création d'un nouveau parti afin de proposer aux Français un autre projet, une alternative devenue indispensable à droite, selon le député UMP François Goulard, l'un de ses proches. Antoine Vechter et Jean-Marc Governatori, co-président de l'Alliance écologiste indépendante, répondent présents après l'appel de Daniel Cohn-Bendit pour construire un grand mouvement écologiste français. Dans une tribune à Libération, Daniel Cohn-Bendit propose aux écologistes d'inventer ensemble une coopérative politique pour 2012. Noël Mamère se dit également intéressé par cet appel. Il l'a dit dans notre journal de 13h.
On peut pas continuer avec d'un côté les Verts, de l'autre côté une nébuleuse qui s'appelle Europe Écologie, constituée de personnes venues de la société civile. Il faut qu'on arrive à unifier notre mouvement. Moi, c'est ce que j'appelle le dépassement des Verts, mais surtout pas la dissolution des Verts. Il faut donc que tous nous puissions contribuer aux décisions que nous allons prendre, à l'organisation, à la construction et à l'affinement du projet, comme le dit très bien Cécile Duflot. Mais ça ne peut pas être deux entités séparées. Pour l'instant, on a joué sur cette illusion qu'on était tous ensemble, mais je pense qu'il faut regarder les choses en face, et comme notre logique c'est celle de la transparence, c'est très bien que Dany l'ait affirmé et l'ait écrit. En effet, nous avons gagné les européennes et nous sommes maintenant la troisième force politique du pays, la deuxième force de la gauche. Il ne faut surtout pas dilapider ce formidable capital politique qui va servir à gagner en 2012, je l'espère, contre le sarkozysme. Je pense que d'ici la fin 2010, tout ceci devrait être réglé.
Noël Mamère au micro de Claire Servageant. La grève de demain devrait non seulement toucher la SNCF et la RATP, mais aussi les transports urbains dans 45 villes sur 118, mais de façon très inégale selon l'Union des transports publics et ferroviaires.
Service public. Isabelle Giordano.
Comment lutter contre la pauvreté? Comment mesurer l'efficacité des politiques publiques? C'est la question que nous nous posons demain dans Service public et nous recevrons entre autres l'économiste Esther Duflo. Et vous pouvez bien sûr participer à notre discussion sur franceinter.com. J'attends vos questions et vos réactions.
Service public du lundi au vendredi à 10h. Lucie est sereine. Elle a choisi Autopass.
De la GMF.
L'assurance auto de la GMF qui en fait toujours plus pour elle et pour son budget.
Avec la GMF.
Lucie sait qu'elle fait 10% d'économie quand elle roule peu avec son auto ou quand elle prend les transports en commun. Et parce qu'elle a un véhicule plus propre, elle fait encore 5% d'économie.
Avec la GMF.
Lucie est sereine. Elle peut donc penser à autre chose qu'à son assurance auto. Ce qui est humain après tout. GMF, assurément humain. Voir conditions en agence ou sur gmf.fr.
France Inter.
La différence.
16h04, on retrouve Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Angélique.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, c'est la journée mondiale de l'eau, mais oui, ce 22 mars, l'ONU a décidé de mettre l'accent sur la dégradation de la qualité des eaux sur l'ensemble de la planète. Et les eaux ont inspiré évidemment beaucoup de musiciens, par exemple Smetana, qui dans son cycle Ma Patrie a écrit sur cette rivière Vltava, qu'on appelle aussi la Moldau, une page sublime, absolument incroyable, une description touchante qui ne raconte pas seulement le mouvement des flots, mais aussi toute l'histoire qu'il y a autour de cette vallée. On traverse des forêts, on traverse des petites fêtes, des réjouissances, un mariage, des rapides avant d'arriver au magnifique confluent avec l'Elbe. Ben, il faut honorer cette page avec une interprétation historique, celle de Karel Anscherl, qui a été gravée en 1963. Ce qui avait d'historique, c'était d'abord un grand orchestre, l'Orchestre Philharmonique Tchèque, et puis un magnifique chef d'orchestre. C'était aussi, à l'époque, le premier enregistrement stéréophonique de cette page superbe, on peut dire même sublime.